C'est un invité mystère ou c'est pas un invité mystère?
C'est un invité mystère.
Bon. Alors tu lis un petit bout et on essaie de deviner qui c'est.
Ça va. Dadka s'assit lourdement sur un rocher. Même Emma restait muette de stupéfaction. Sphinx s'était pétrifié, incapable, comme les autres, de nommer cette aberration. Non qu'elle lui fût inconnue, pourtant. Ce qu'ils avaient là sous les yeux, et l'avaient tous déjà vu au cours de leur existence. Ce qui les avait fait taire, ce n'était pas la chose en elle-même, c'était le fait grotesque de trouver ce machin dans le désert du Néguef. Car cette fameuse chose dont on n'apercevait en réalité qu'un fragment, c'était le kiosque d'un sous-marin. Je me souviens très bien qu'un petit moment passa avant que quelqu'un retrouve l'usage de la parole. En l'occurrence, ce fut Emma. Dis-moi, l'écriture c'est du grec ? Sphinx sembla émerger d'un rêve. « Non, trésor, c'est du russe. Tu arrives à lire ce qui est écrit ?»« Bien sûr, il est écrit « Ziga Vertov ».»« Et ça veut dire quoi ?»« Ça ne veut rien dire, ma puce, c'est seulement son nom. » »« Et c'est seulement grâce à ce nom que je t'ai trouvé, Sphinx, » dis-je avec douceur près de son oreille. Elle se tourna vivement vers moi, avec au fond des yeux une étincelle de défi, ou peut-être de défiance. J'espère que tes explications vont tenir la route maintenant, parce que je ne comprends pas grand-chose à cette mascarade. Je mis les mains dans mes poches et haussai les épaules, en choisissant d'être un brin provocateur. Que vois-tu une mascarade ? C'est juste un sous-marin russe qui s'est échoué dans le désert du Néguef.
Les manuscrits de Kinéret.
Frédéric Delmeul, pour vous servir. Donc j'ai au départ une formation d'historien, en histoire contemporaine, des études réalisées à la fac de Nanterre il y a déjà très 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 longtemps, dans les années 80. Et je me suis spécialisé assez vite dans l'histoire du cinéma, jusqu'à commencer à faire de la recherche à partir de la maîtrise. Et en gros, maîtrise, DEA, doctorat, je suis devenu un petit spécialiste français, notamment du cinéma documentaire, et surtout sur la période la plus ancienne. La période primitive, entre guillemets, du cinéma documentaire, le muet, quoi, principalement. Et j'ai donc fait une thèse. Je me demande aujourd'hui comment j'ai pu avoir l'idée d'une thèse pareille. C'était sur l'utilisation pédagogique du cinéma documentaire entre, en gros, 1905 et 1928. Voilà. Alors en fait c'est né d'une opportunité professionnelle puisque je travaillais à l'époque, alors j'avais travaillé à la Cinémathèque française, j'ai travaillé ensuite pour la Bibliothèque de l'Arsenal, département des arts du spectacle, et puis j'ai travaillé pour la bibliothèque, ce qui est devenu la BNF, Bibliothèque Nationale de France, au département audiovisuel, et j'avais été mis en contact comme ça avec un catalogue de films documentaires de la société Gaumont qui avait marqué son époque. Alors, donc les années 10 et les années 20, et quelque chose qui était complètement tombé dans l'oubli. Donc, je me suis dit que ça faisait quand même un super corpus pour pouvoir attaquer une thèse. Et surtout que j'étais le seul à avoir vu ces images, en gros.
Ce que je voulais dire, c'est que tu devais vraiment être tout seul sur ce thème-là.
On était peut-être 3 ou 4 à l'époque à commencer à aborder le sujet du documentaire et de ses utilisations pédagogiques en France. Donc, on ne se marchait pas sur les pieds. Ouais. Il y avait un boulevard. Quand on est chercheur, quand même, on est embarqué dans un, enfin, enfermé dans un carcan qui est assez strict. C'est pas facile d'en sortir. Et puis dès qu'on essaie d'en sortir, on se le fait reprocher assez vite. Et je trouvais qu'en fait, j'avais toujours à peu près la même démarche et ça commençait à ronronner un peu trop, quoi. Je m'ennuyais. Faut le dire clairement, je m'ennuyais un peu. Donc j'ai voulu passer à autre chose.
Voilà, et c'est comme ça que t'as commencé à écrire.
Ouais.
Et tu ne décrivais pas auparavant ? C'est venu assez tard, si ?
Non, enfin, j'avais commencé à faire de la fiction quand j'étais au lycée, en gros. J'avais participé à la création d'un petit fanzine lycéen, puis étudiant après, où je faisais déjà des short stories de SF. J'espère que personne ne les retrouvera jamais, d'ailleurs. Hein. J'ai racheté les derniers exemplaires existants.
Ouais. Si, dans 20 ans, il y a un jeune homme qui fera sa thèse sur toi. Qui ressortira tes
shorts. J'espère que non. J'espère que non. Enfin, c'était inspiré par mes lectures du moment. Ça volait sans doute pas très haut, mais enfin, c'était un premier contact. Et ça plaisait bien aux 15 personnes qui nous achetaient le fanzine. Donc, voilà. Ça a été le point de départ. Et puis après, c'est vrai que j'ai laissé tout ça un peu entre parenthèses parce que bah, je me consacrais à la recherche. J'écrivais beaucoup, mais uniquement de la recherche. Et donc la fiction, c'est un truc qui a ressurgi. Les premiers projets de romans, c'est la toute fin des années 90. Quoi. L'histoire qui est devenue la parallèle Vertov, ça s'est mis en place à peu près à ce moment-là, vers 98-99. J'écrivais pratiquement rien. Et puis les romans suivants et ceux qui s'articulaient autour de la parallèle Vertov, c'est pareil, ça a émergé, disons, il y a une petite dizaine d'années en tant qu'ensemble constitué. Et je me suis mis vraiment, enfin, sérieusement à écrire, 2002, 2003, c'est là que j'ai fait la première version de la parallèle Vertov, ouais, donc Nec de Léatour.
Oui.
Qui n'a trouvé aucun éditeur à l'époque.
Tu commences un peu comme un roman feuilleton. J'ai vu une référence à Gaston Leroux. Mmh. Quelle est ta connaissance de ce type de littérature ?
Une connaissance de gamin. Quand j'étais gamin, après ado, je lisais un peu tout ce qui me tombait sous la main. Et c'est vrai que j'ai lu du Conan Doyle, du Gaston Leroux. Ça a dû marquer quelque part mon imaginaire. J'avais lu tout Jules Verne grâce à ma grand-mère qui me payait les éditions intégrales chez Grund. Bon, c'était des trucs assez ardus à lire, hein. C'était texte intégral, etc., avec les passages pédagogiques interminables. Oui. Et je maudissais ma grand-mère quand il fallait les lire, mais finalement, bon, elle a bien fait parce que ça m'a marqué incontestablement. Donc, au départ, c'est vrai que ma première approche de la science-fiction, je l'ai forgée dans les années 70, c'était une science-fiction qui datait uniquement du début du XXe siècle. Donc c'était Verne, c'était Wells, bien sûr, plus la littérature populaire, notamment le roman policier, un peu matiné de fantastique quelquefois, tel qu'on peut l'avoir chez Conan Doyle, par exemple. Et donc l'idée, c'était de rendre un hommage. Un hommage à cette littérature populaire que j'avais beaucoup aimée, et puis en fait d'élargir cet hommage à d'autres formes de littérature populaire. Le roman d'espionnage des années 80, et il y en a aussi des choses qui transparaissent dans la parallèle Vertov. Et puis dans le deuxième volume, les manuscrits de Kinneret, là j'ai visé carrément la parodie gentille, un petit peu tendre, du thriller ésotérique. Je me suis dit que si on voyageait dans le temps, il fallait forcément, un jour ou l'autre, aller voir Jésus, parce que quand on a une machine à voyager dans le temps, si on ne va pas voir Jésus, on n'a pas...
À lui poser.
Voilà, on a exactement quelques questions à lui poser. Sauf que je ne voulais pas faire du Dan Brown, refaire le Da Vinci Code et tout ça, donc finalement, on part à la recherche de Jésus, mais ce qu'on en apprend, c'est pas du tout ce qu'on en attend au début. Enfin, j'espère en tout cas que c'est pas ce que le lecteur attend au début.
T'as pas eu peur qu'il y ait des gens qui mettent le feu à des librairies comme à une certaine époque quand un certain film est sorti?
Non, tu vois, non.
Non, t'es allé soft quand même.
Ah oui, j'y suis allé soft. Puis bon, de toute façon, je savais que j'arrivais après la vague. La mode était passée déjà, donc moi je m'inscrivais dans le pastiche, dans la parodie. Je savais très bien qu'il fallait pas se prendre trop au sérieux. C'était pour me faire plaisir avant tout. Et puis au passage aussi, parce que malgré tout je reste historien, donc c'était pour glisser quelques petits trucs, ce que j'avais envie de dire sur l'histoire du christianisme, tout le mythe qu'on a construit, toute la légende qu'on a pu construire autour d'un personnage comme Jésus. Ça me plaisait bien, même si c'était un petit peu démodé. Enfin, je revendique complètement mon côté démodé, de toute façon j'ai jamais été à la mode et je crois que c'est pas aujourd'hui que ça va commencer.
On comprend, nous on sait ce que c'est.
Est-ce que ta connaissance du cinéma influe sur ta manière d'écrire ?
Ah oui, complètement. Je suis un vieux rat de cinémathèque. J'ai plus beaucoup l'occasion d'aller au cinéma aujourd'hui. J'ai un peu perdu pied là-dessus, d'ailleurs, je le regrette, mais je ne peux pas écrire une scène si je ne l'ai pas en tête. Et quand je l'ai en tête, ça passe par des plans de cinéma. Ça passe par un découpage quasiment cinématographique. Mes personnages, les dialogues, la façon dont ils se situent dans l'espace, tout ça, je l'ai d'abord en image avant d'essayer de le transcrire sur papier. Et donc, inévitablement, tout ce que j'ai écrit s'appuie ses sources dans un certain cinéma, celui que j'ai pratiqué, c'est-à-dire la série B de science-fiction des années 50 aux années 80. Bon, en lisant la parallèle Vertov ou les manuscrits de Kinneret, on ne peut pas ne pas penser, je crois, à cette série Retour vers le futur, entre autres. Mais ça s'est nourri aussi du western, du film policier. Dans les manuscrits de Kinneret, il y a une scène qui pourrait être sortie de Bullitt avec Steve McQueen. Du film d'espionnage, dans la parallèle, il y a toute une séquence qui a été inspirée directement par Octobre Rouge avec Sean Connery, etc. Les références, elles sont partout.
Un sous-marin qui sert de...
Voilà, c'est, le pitch de départ, c'est l'achat d'un sous-marin nucléaire au moment de la débâcle de l'URSS. Et donc, on est en plein dans le contexte de la fin de la guerre froide, du délabrement économique et militaire de l'URSS, le moment où la Russie se fonde, mais tout part à l'abandon. Et donc il y a deux scènes qui se passent entre l'oncle, enfin le professeur des Almedia, l'un des héros du livre, et les marins russes à qui il achète leur sous-marin. Et bon, là c'est vrai que j'avais des images très, très claires du cinéma d'espionnage, et puis aussi des romans d'espionnage comme John le Carré par exemple. Toute une ambiance assez cynique, assez froide des années 80, ça me semblait assez caractéristique de la période.
Tu verrais ton bouquin acheté par le cinéma pour en faire un film ?
Absolument pas. Je crois que... Bon, j'espère me tromper, mais je crois que c'est absolument impossible à traduire en film. Le monsieur derrière
dit que... Qui est le monsieur derrière ? S'il vous plaît, le monsieur derrière.
Un lecteur et un chroniqueur.
Ah. Le monsieur derrière a beaucoup apprécié la parallèle Vertov. Par contre, je ne sais pas ce qu'il a pensé du manuscrit de Kinneret.
J'ai eu un peu de mal à m'y mettre, le tout début, et puis ensuite je l'ai relu, donc je suis en train de le lire là, et j'ai pris une claque.
C'est vrai. Il est posé parce que je voulais prendre le temps de parler de Jésus, et donc c'est vrai qu'il y a deux chapitres au début qui sont des chapitres sans action en fait, ce sont des récits sur l'existence de Jésus, et c'est vrai que là je me disais, c'est pas trépidant comme début, forcément, il va falloir que le lecteur s'accroche. Mais bon, le lecteur, il est capable de s'accrocher des fois, donc voilà. Je lui ai fait confiance.
Merci.
Merci. Hervé, tant de livres.
Au point de vue science-fiction pure, tu apportes des explications au voyage dans le temps ? Tu as fait un effort scientifique ou pas ?
Alors, dans la parallèle Vertov, le professeur, qui est celui qui a construit la machine, donne à son neveu toute une série d'explications. Ces explications, alors c'est de la pure parodie, là. Sur le plan scientifique, elles n'ont absolument aucune valeur. Enfin, bon, je crois qu'elles peuvent même être considérées comme risibles. On est juste dans le gag et dans le deuxième degré. Et en fait, je fais intervenir un personnage qui est le narrateur omniscient, et qui est aussi le créateur de ce monde. Et donc c'est lui qui justifie l'existence de la machine, mais sans jamais expliquer comment on a pu la réaliser. Donc moi je ne me place pas dans le champ des explications scientifiques.
Par contre, au point de vue historique, t'as bétonné.
Ah oui, alors là, le point de vue historique, là c'est mon terrain, c'est clair. Donc je peux pas écrire une scène qui se passe à une autre époque sans avoir une bonne documentation au départ, quelque chose d'assez approfondi. J'en vire les trois quarts. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de refaire un autre livre d'histoire qui pourrait être lu que par des spécialistes. Mais il faut qu'il y ait un background très, 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 très costaud avant que je puisse commencer à écrire quelque chose. Dans les manuscrits de Kinneret, avant de commencer à écrire quoi que ce soit sur Jésus, je me suis enfilé quand même pas mal d'ouvrages et de revues quelquefois très confidentielles.
Et en conclusion, on va te laisser tranquille.
Mais surtout que j'ai une dédicace là.
Oui, voilà. Donc, quels sont tes référents écrivains ? T'en as ?
À part Averne. À ma grande honte, j'en ai pas tant que ça. J'en ai pas lu beaucoup en fait de science-fiction. Là, je recommence seulement à en lire depuis 2-3 ans. Donc mes référents sur la parallèle Vertov et les manuscrits de Kinneret, c'est des référents anciens. Et quelque part ça me sauve parce que, par exemple, j'ai lu dernièrement Les vaisseaux du temps de Stephen Baxter, et si je l'avais lu avant, je ne sais pas si j'aurais trouvé intéressant de me relancer dans ce genre d'histoire et de me reposer ces questions, parce que enfin, je trouve que sur le plan scientifique peut-être, en tout cas littéraire, il a quand même poussé la thématique du voyage dans le temps très très loin. Et si je l'avais lu avant, je me serais dit à quoi bon, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose d'original? Donc je suis content de l'avoir fait sans l'avoir lu. Au final, je crois qu'on raconte pas du tout les mêmes choses, on n'a pas du tout la même approche. Ce que j'ai fait, c'est peut-être un point de vue quand même un peu original et décalé. Et je suis content de l'avoir fait sans avoir lu ce livre-là, ou quelques autres.
Bon, alors moi, Flo... Je sais pas toi, hein, puisqu'on a lu chacun de notre côté. Moi, j'ai super aimé Frédéric Delmeul, vraiment. Vraiment, j'ai trouvé ça excellent.
Tu as aimé Frédéric Delmeul ou ses bouquins?
Ben, en tant que personne, j'ai trouvé fort sympathique et j'ai pas du tout été déçue par ses bouquins. Mais d'après ce que j'ai compris, il en a un peu bavé pour les sortir, non?
Effectivement, on a entendu qu'il avait commencé à écrire La parallèle Vertov en 98. Mais c'est sorti chez Mnemos qu'en 2010.
Il a pris son temps.
Mais en fait, l'œuvre a été découverte sur un petit éditeur qui s'appelle éditeurindépendant.com sous le titre de Nec d'Eléa Tour. C'était paru en 2007.
Ouais. Et puis, si je me souviens bien, alors il nous a expliqué, c'était compliqué. Hein. Excuse-moi, moi, tu sais, avec ma petite cervelle, c'est un peu difficile pour moi. Mais que, apparemment, ça lui avait quand même bien servi de sortir ça d'un petit machin, parce que ça lui avait fait de la pub, qu'on avait commencé à parler de lui, et que c'est grâce à ça qu'après, il a pu sortir vraiment chez Mnemos un bouquin qui est commercialisé.
Oui, Nec d'Eléa Tour avait quand même obtenu des critiques positives, donc ça lui a permis de se faire connaître.
Moi, je trouve ça super cool, parce que j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Voilà. Est-ce que tu veux que je t'en parle ou j'ai pas le droit d'en parler ?
Non, c'est moi. Aujourd'hui, c'est moi qui parle.
Bon, c'est pas sympa, merde. Pour une fois, j'ai envie tout plein de parler. Je suis en forme et tout.
Comment ça, pour une fois, j'adore.
Oh, dis que je suis bavarde. Maintenant, je vais bouder, je vais m'enfermer dans ta chambre.
Bah, voyons.
Alors, je peux parler ou pas?
Alors, donc, nous avons droit à un diptyque qui sera un triptyque.
Ouais, ben j'espère qu'il a déjà la suite, parce que moi j'aimerais bien lire la suite.
Une suite qui n'est pas vraiment une suite, parce que chaque tome peut se lire plus ou moins indépendamment.
Oui, ben c'est ce qu'on dit, mais franchement, les manuscrits de Kinneret, j'ai trouvé ça vachement sympa à lire, parce que j'avais lu la parallèle Vertov.
C'est vrai que j'ai commencé par les manuscrits, et au début j'ai un peu ramé quand même.
Ah ouais, alors que moi pas du tout, comme je l'avais lu la parallèle d'abord, je me suis pas ennuyée, si tu veux. Justement, je me disais, mais où il veut en venir, où il veut en venir, tu vois. Et voilà, ça m'a poussée à le manger encore
mais
plus
vite. Mais moi aussi, je me disais, où il veut en venir, mais j'ai trouvé que ça mettait du temps à démarrer quand même, les manuscrits.
Ah ouais.
Alors que la parallèle, pas du tout.
Mais je sais pas, je me suis pas ennuyée parce que je trouve que Frédéric, il est assez fort, justement, pour te faire passer l'histoire. Comme une petite pastille pour la gorge, tu vois, ça fond tout seul.
Ouais, ça doit être ça, je suis nulle.
Moi, j'adore. Non, je trouve ça super intéressant, surtout qu'en plus, tu sais qu'il est super documenté et que ce qu'il dit, c'est pas des conneries, c'est pas du à moitié, du pas précis. Et je sais pas, vraiment, ça m'a plu. Moi, j'ai vraiment
aimé. Mais je crois que moi, j'ai accroché plus au début de la parallèle Vertov parce que j'adore les romans populaires.
Ah, mais c'est fabuleux. Moi, j'ai retrouvé Rouletabille et tout ça. Ouais, c'est excellent. Et Frédéric, t'es peut-être pas la mode, mais c'est génial, franchement. Ce petit côté désuet.
De mode pas.
D'un autre temps, et en même temps, qui est marié avec vraiment de la SF parce que ça se passe dans le futur, quoi. Le mariage est très subtil et il se fait très bien. Et je trouve ça super. Vraiment, j'ai bien aimé.
Et la construction de la parallèle est vraiment super intelligente.
C'est
tout le long, tu te demandes où il te mène. Tu te laisses complètement embarquer dans une chose fausse.
Oui, puis tu te dis, mais...
Tu te fais avoir comme un bleu.
Il y a des incohérences, mais il écrit comme un porc, ce Frédéric, et tout. Et il fait faire n'importe quoi à ses personnages. Et tout s'explique. C'est toi qui passes pour un con en lisant le bouquin. Tu te dis, ah, je l'ai pris pour un nigo qui sait pas écrire. Tu parles qu'il sait pas écrire.
Ouais.
Non, franchement, moi, c'est très particulier. Franchement, c'est très particulier. C'est original, c'est sympa comme tout. Comment c'est construit, c'est un mélange de styles, un mélange d'influences. On sent carrément ce qu'il a fait dans le cinéma.
carrément ses influences au niveau de la lecture, l'influence de son métier d'historien. D'ailleurs, il fait une super diatribe sur l'historien. On se demande s'il aime tant que ça, les historiens. Mais il m'a bien fait rire. Et puis, il est super subtil parce qu'il te fait passer un certain nombre de ses opinions, notamment un peu politiques quand même. Mais alors, sans que tu t'en rendes compte.
C'est vrai.
Ça passe tout en douceur, tout en soft.
Ça passe très bien.
Voilà.
Mais quand même, les manuscrits... J'ai envie de les relire maintenant que j'ai lu la parallèle.
Moi, je te le conseille. Franchement, ouais. Je te le recommande.
Enfin, ceci dit, j'ai beaucoup apprécié toute la partie dans l'Antiquité.
Moi, je l'attendais carrément au tournant, hein, sur Rencontrer Jésus. Hein.
Ouais, Rencontrer Jésus, c'est très bien.
Et c'est super. Il a fait ça, ouais. Mais alors, c'est de la soie, c'est du velours. Il t'a pas fait un truc, justement, à Da Vinci, à gros spectacle, bim, bam, boum. Yeah, voilà Jésus et tout. Non, c'est... Je trouve ça, en plus, ça correspond bien à l'idée que je m'étais faite de Jésus, moi, du personnage de Jésus et tout. Enfin,
oui, on n'a pas une énorme surprise non plus.
Il y a quand même une sacrée surprise, mais il faut pas le dire.
Non, faut pas le dire.
Mais il y a quand même une sacrée surprise.
Il y a une sacrée surprise, mais enfin, j'ai pas trouvé son Jésus si original que ça, ceci étant.
Ben, qu'est-ce que tu veux faire que Jésus soit original?
Non, mais voilà.
C'est pas un joueur de hard rock. Ah, je sais. Tu voulais que ça soit un catcheur. Et le coup du sous-marin, c'est super.
Ouais.
Ça super, moi. Enfin, il y en a encore jamais sorti ça, les mecs qui voyagent dans le temps d'un sous-marin. Quand tu le dis comme ça, ça fait rigoler. Non ? Ben non, ça te fait pas rigoler.
Non, moi je trouve pas ça drôle.
Ah ouais ?
J'aime pas, moi, les sous-marins. Ça m'étouffe rien que d'y penser.
Ouais, mais alors, en même temps, moi, je trouve ça super fascinant comme véhicule.
Bah, c'est vrai qu'il n'a pas eu à construire son vaisseau.
Non ? Tu l'as eu à la poursuite d'Octobre Rouge, non ?
Non.
Évidemment.
Bah, non.
T'as vu le film ?
Non.
Parce que moi, j'ai lu le livre avant de voir le film. Et franchement, ce bouquin, il est fabuleux, il est excellent, il est génial. Et c'est pour ça, depuis, que je suis fascinée par les sous-marins. Mais on a tout dit, qu'est-ce qu'on va dire d'autre maintenant ?
Ben, on conseille vraiment, qu'on conseille vraiment Frédéric Delmeul à lire, quoi. Voilà, on a fini. Hein. Qu'est-ce que tu veux rajouter des choses ?
Rajouter des choses. Des choses ?
Des choses. Moi, je vais rajouter une chose. Aujourd'hui, on a fait de la science-fiction.
Oui.
Anne, ça faisait longtemps.
C'est vrai.
Et c'est pour vous dire qu'il y a un nouveau podcast qui est né.
Ouais ?
Ouais. Il s'appelle elbakin.podomatic.com.
C'est qui fait ça ?
Ben, c'est le site Elbakin et il parle de fantasy.
Ah ouais.